Accès libre avec Luc Fortin.
Aïe, aïe, aïe! J'en parlais avec le chef d'antenne principal. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, Louis Garon. Est-ce qu'il est en onde, le chef d'antenne, Jean-Sébastien Laliberté, pour qu'on l'appelle chef d'antenne?
C'est une question que tu pourrais lui poser une prochaine fois, mais non, il n'est pas en onde ces temps-ci.
OK. Bon, en tout cas, il est finalement de retour au bureau. C'est sympathique de le voir. Et on se disait aujourd'hui, hé là là, il me semble qu'on est un petit peu à côté de la plaque. Hein? Les gens ont la tête au grabuge, aux différences raciales. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire sur le handicap. Et c'est ce qu'on va faire, comme c'est souvent, sinon toujours, notre habitude à Accès libre. Bonne semaine québécoise pour ceux pour qui ça compte, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont organisé des activités en lien avec la SQPH, Semaine québécoise des personnes handicapées, qui démarre aujourd'hui, qui va comme ça, année après année, jusqu'au 7 juin. Et enfin, ça se passe du lundi au dimanche. Je sais que ça a l'air évident, là. Mais parfois, la SQPH commence le jeudi, il va jusqu'au mercredi suivant, puis c'est... Bon, de toute évidence, ils ne m'ont pas consulté là-dessus. Il sera question aujourd'hui, entre autres, de déplacement à Montréal. On va causer avec l'Ombudsman. On va également s'intéresser à Ludociel et à l'avenir. Avec à la mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté, c'est Christiane Campagna qui est à la recherche de cette émission. Et Dimestre, je disais qu'on va s'intéresser à l'avenir parce que si plusieurs personnes handicapées se réjouissent de l'arrivée des grands sur le marché des technologies adaptées pour des joueurs spécialisés, je pense à Optolec, Freedom Scientific ou autres IRA de ce monde, l'avenir est peut-être moins rose. On peut présumer qu'ils seront, sinon déjà, sont appelés à se redéfinir, à se réinventer. Et aujourd'hui, on avait envie de poser la question à quatre personnes provenant de compagnies comme public cible la personne handicapée visuelle principalement, donc de nouvelles technologies. Je pense à Canadialogue et Humanware, spécialisées donc et québécoises canadiennes. André Dubois est ambassadeur, Michel Pépin est directeur des ventes Canada chez Humanware, Georges Hassoun est président, Alexandre Belmar est responsable du soutien technique et représentant également des ventes chez Canadialogue. Messieurs, bonjour.
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 C'est la première fois qu'on a autant de monde. On essaie, on verra bien, on espère que ça va fonctionner parce que ce serait une belle réussite. Et bravo d'ailleurs à ceux et celles qui ont travaillé sur la possibilité d'avoir autant de monde. C'est vraiment, vraiment apprécié. Georges et André, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ma prémisse, à savoir que... je pense à vos deux compagnies, mais je pense à Optolec, je pense à Freedom Scientific, Vous êtes appelés à vous réinventer, à vous redéfinir, où il y a encore une place pour compétitionner malgré l'arrivée et les bouleversements, je pense à l'arrivée là, des grands, là, Apple, Microsoft. Georges?
Oui, donc personnellement, juste pour me présenter un peu, moi-même, je suis voyant. Mais mon frère, qui est fondateur de Canadialogue et du groupe Médialogue en Europe, il est aveugle. Et donc, il avait commencé à faire des études malgré son handicap qu'il a eu pendant la guerre au Liban, en France. Et il était obligé de se débrouiller, de hacker.
Si tu le permets, Georges, parce que c'est une de mes questions, on y reviendra plus tard peut-être aux origines et comment votre mission
a évolué.
Oui,
juste pour dire pourquoi... Oui, pour dire que le besoin qu'il a eu de fonder une société pour apporter des aides techniques, c'était parce qu'il en avait le besoin personnellement et qu'il était en train de, comme on dit en anglais, hacker les technologies pour trouver des solutions, pour adapter les technologies à ses besoins et par conséquent aux besoins de ceux qu'il connaissait. Donc, ils étaient un groupe et ils ont commencé à faire des aides techniques et tout ça. Donc, l'arrivée des géants comme Apple ou Google ou Facebook ou autres ou Amazon, qui font que ces technologies sont maintenant plus accessibles et plus démocratiques, ne fait que nous donner du baume au cœur, si je puis dire, parce que cela permet à ces personnes qui en ont besoin d'être au même niveau d'accessibilité de ces nouvelles technologies ou de ces outils modernes. Donc, nous nous réjouissons au fond. Maintenant, sur le fait et sur le terrain, effectivement, ça enlève beaucoup de besoins de personnes directement, si on veut parler en termes de vente, c'est-à-dire on va vendre moins de software, de logiciels, on va vendre moins de aides techniques parce que les gens peuvent trouver leur compte avec les moyens qui sont accessibles aujourd'hui via les géants. Et par contre, même les personnes qui n'ont pas d'handicap visuel, est-ce qu'elles utilisent elles-mêmes ces technologies à 100%? Je prends un exemple d'une personne normale qui travaille, je ne sais quoi, qui n'est pas son métier d'utiliser Excel. Est-ce qu'elle utilise Excel, par exemple, comme une personne peut l'utiliser? Elle n'utilise peut-être que 1%
Bien sûr.
C'est comme donc, ces technologies, elles apportent des solutions, mais comme elles apportent des moyens supplémentaires et d'effets leviers considérables, notre présence doit s'adapter dans ce sens, à savoir que nous devons être là pour aider les personnes, chacun dans son cas spécifique, à utiliser ces moyens et à rebondir peut-être mieux qu'espéré ou mieux qu'attendu.
André, lorsque je pense à... Bon, André, toi, vous êtes handicapé visuel, en même temps, vous travaillez pour la compagnie. Donc, il y a l'individu et il y a celui qui représente une firme qui déjà a fait beaucoup dans le passé et veut continuer à être un joueur actif pour rendre le quotidien plus accessible via les nouvelles technologies. Mais à quel point ces bouleversements affectent l'avenir de HumanWare?
Honnêtement, présentement, on ne le voit pas ça parce qu'on est à développer activement une gamme de nouveaux appareils pour la base vision. Notre entreprise touche à deux grandes familles, la base vision et la cécité. Là, présentement, on est en train de développer une nouvelle gamme de produits base vision. Puis, ça, c'est surtout qui s'adresse surtout au milieu de l'éducation. Et on développe aussi encore de nouveaux appareils braille qu'on vient de lancer, justement, qui vont être distribués aux États-Unis par l'American Printing House. On a des commandes importantes. Puis, on a d'autres commandes aussi qui s'en viennent pour la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Un appareil braille toujours, celui-là pour le NLS. Donc, nous, pour notre entreprise, personnellement, nous autres, ça développe toujours. Il n'y a aucun ralentissement. On est encore toujours en croissance. Juste un petit quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que notre entreprise, dans ses 31 années d'existence, bientôt 32, on a jusqu'à date développé 50 produits et logiciels qui ont touché à 1 million de personnes dans le monde. C'est quand même important parce que c'est un pôle de développement qui est basé ici au Québec.
J'ai envie de parler à Michel et Alexandre, donc des gens qui sont soit formateurs, soit vendeurs, soit responsables du soutien technique. Je me trompe ou l'avenir passe par l'application plutôt que l'appareil?
Bien, effectivement, je pense que l'avenir passe beaucoup effectivement par l'application, par le logiciel, mais non pas que. Bien évidemment, il y a des grandes sociétés telles que Microsoft, telles que Apple, qui mettent de l'avant un très, très grand nombre d'applications qui sont extrêmement personnalisables. C'est sûr que tout rentre effectivement dans la personnalisation. Le fait, par exemple, de pouvoir choisir certaines couleurs, mais vraiment de pouvoir choisir, par exemple, exactement la couleur voulue pour l'utilisateur qui est en basse vision, c'est tellement un gros plus. Mais ces sociétés-là développent, par exemple, des solutions. Nous autres, on peut en développer. Mais qu'est-ce qui est primordial pour l'utilisateur, c'est d'avoir du support technique qui est personnalisé, de la formation qui est personnalisée à ses besoins. Je suis moi-même en situation de cécité totale et je suis formateur en technologie adaptée. Je découvre aujourd'hui et je vais toujours en découvrir des besoins que personnellement, j'aurais peut-être même pas pensé avoir. Donc, franchement, c'est génial, en fait, comme petite société, de pouvoir aider et participer à trouver des solutions aux besoins des utilisateurs. Et quoi de mieux pour un utilisateur, par exemple, de se faire entendre ses besoins par un utilisateur qui est exactement dans sa situation.
Ouais, c'est
donc, c'est vraiment là-dessus qu'on mise chez nous et vraiment d'avoir un service qui est personnalisé parce que souvent, la personne va être en mesure de parler toujours avec la ou les mêmes personnes comparativement à une grande société comme Apple ou ce qu'on va appeler pour avoir du support et qu'en 3 appels, on va être obligé de réexpliquer 2 fois et demi notre situation à cause de la lourdeur administrative.
D'ailleurs, on viendra, temps permettant, là, sur la formation que vous offrez. Michel, j'ai envie de parler de paradigme. Vous êtes sur le terrain, vous parlez aux clients, vous entendez ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ne veulent pas. Moi, je sais, et je ne suis pas le seul, j'ai troqué mon tracker pour un blind square. Comment une compagnie change-t-elle de paradigme? T'sais, on est habitué de produire telle ou telle chose, d'aller dans une direction, puis à un moment donné, on se rend compte que oui, mais le client, peut-être qu'il veut autre chose. Et c'est vous le premier qui allez l'entendre, ça. Et là, vous devez aller à vos patrons en disant, là, gang, on doit changer notre façon de penser, notre façon d'être. Comment ça se passe, un changement de paradigme important comme, supposons, passer de la production d'appareils pour une production d'applications qui va être plus moins coûteuse, plus légère?
C'est sûr qu'on tient compte de plusieurs facteurs. La voix du consommateur est très importante pour nous autres. C'est sûr que si on regarde, on fait un pas en arrière, on recule 5 à 10 ans, on faisait beaucoup plus d'appareils spécialisés pour être capable de répéter beaucoup des activités, des appareils grand marché étaient capables d'offrir aux gens qui ont la vue. Mais ce qu'on est en train de développer, puis ce qu'on écoute beaucoup, parce que c'est sûr que le consommateur qui soit basse vision, qui soit technicité, il va être capable d'utiliser tous les produits qui sont disponibles sur le grand marché, qui sont disponibles pour tous leurs collègues qui ont la vue, d'être capable de les utiliser à la même façon ou du moins d'avoir un appareil qui est capable de répliquer ou de mimiquer une grosse partie de des activités et des avantages que les appareils grand marché font. Donc, pour nous, tu as parlé tout à l'heure du tracker, c'est clair que c'est un appareil que nous, on avait développé, très spécialisé. On offrait beaucoup plus de valeur ajoutée que ce que les produits grand marché offraient à ce moment-là.
Ouais. C'était vraiment fabuleux. Que, quand ça a sorti, c'était fabuleux. Oui, oui.
Mais là, l'avantage qu'on voit aussi, c'est que les compagnies grand marché, qu'on va les appeler mainstream, les Apple, les Google, etc., c'est sûr qu'ils commencent à rajouter de plus en plus d'accessibilité à leurs produits. Et comme moi, je te dirais, comme compagnie, même Humanware, c'est clair, pour nous autres, c'est souhaitable que l'accessibilité soit implantée le plus rapidement possible, même à la source. Mais on va se spécialiser ou sur-spécialiser là où ces compagnies-là ne sont pas capables d'offrir la pleine accessibilité. Donc, pour nous, c'est d'écouter un petit peu la voix des consommateurs, de dire ben, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, puis dans la mesure du possible, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir aussi.
Ouais.
La technologie, elle évolue tellement vite qu'on est capable aujourd'hui de dire ben, on utilise les plateformes grand marché, les plateformes d'Apple, les plateformes de Google, d'Android, et on les adapte pour pouvoir arriver à offrir un produit qui est pratiquement identique à ce que les gens grand marché utilisent ou les produits mainstream utilisent et on est capable par la suite de pouvoir utiliser la plateforme mais avec le côté sur-spécialisé qui est soit pour la cécité soit qui est pour la basse vision et dans le fond d'enlever le stigma que les gens ont eu pendant plusieurs années ou encore de dire j'utilise un produit qui est spécifique ou qui est adapté pour une personne qui a une déficience visuelle. Donc pour nous c'est hyper hyper important de comprendre où la technologie en général va et comment on utilise cette technologie-là pour justement être capable d'apporter une sur-spécialisation sur le côté de l'accessibilité.
Georges Assoun, est-ce que l'avenir passe, et je pense à Canadialogue, mais je pense à différentes compagnies, est-ce que pour plusieurs, l'avenir passera nécessairement par une acquisition de la part d'un gros qui va acheter votre expertise, qui va peut-être acheter vos produits, qui va peut-être acheter la disponibilité. Bon, Alexandre parlait tantôt qu'il est payant pour un public cible de se savoir compris par celui ou celle avec qui on intervient. Donc, est-ce que l'avenir peut passer par faire le choix d'être acheté et rendre les produits mainstream qui sont tellement moins coûteux que les produits spécialisés, de rendre ces produits-là plus adaptés?
La question aujourd'hui, c'est de comprendre en fait qu'il n'y a même... Je vais me focaliser sur le côté visuel. Il n'y a pas un seul besoin unique, central et standard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas centraliser les besoins en disant, tiens, voilà, tout le monde va faire, par exemple, je prenais l'exemple d'Excel tout à l'heure, tout le monde va faire les tableaux de calcul de cette façon. Les besoins, quand on a des difficultés visuelles ou un handicap ou une cécité, c'est tellement différent qu'on peut, et ça dépend aussi de l'environnement dans lequel cette personne navigue, et ça dépend aussi de ses besoins, de ses talents, de ses ambitions, qu'on ne peut pas centraliser les besoins, les solutions en une plateforme en disant, tiens, on va décliner les solutions de cette façon et tout le monde s'adapte. Ce qu'il y a besoin avec les personnes qui rencontrent une difficulté visuelle de par leur jeunesse ou qu'ils découvrent ça tardivement, c'est que les solutions, et c'est ça la technologie, l'essor de la technologie et l'avantage des technologies, c'est qu'elles peuvent s'adapter, comme disait Alexandre, aux besoins de chacun et même peuvent lui offrir des moyens qu'il n'espérait même pas avoir à sa disposition. Mmh. Et là, il va pouvoir utiliser ses moyens et se rebondir, disons, ou simplement se divertir.
Ouais.
Donc la chose, et comme dit Alexandre, c'est que nous avons besoin de proximité. C'est maintenant, si j'ai un besoin de couleur, même ce besoin de couleur pour voir un document ou un objet n'est pas le même d'une personne à l'autre.
Bien sûr.
D'une personne qui a 20 ans ou d'une personne qui a 70 ans. Donc, et ces choses-là, c'est que si on n'est pas à côté et à l'écoute, comme disait Michel, donc on ne peut pas répondre exactement. Donc, les solutions technologiques sont des solutions adaptables et c'est dans ce sens que les sociétés comme la nôtre doivent continuer à exister et même se développer.
André Dubois, comme ambassadeur, comme membre, ça fait quand même longtemps là, que vous êtes associé à HumanWare, qui était avant VisuAid, de penser qu'un jour HumanWare pourrait appartenir à un Américain, un multinational, pour d'autres raisons qu'on fait faillite, mais bien pour s'associer, pour offrir notre expertise. Est-ce que c'est nécessairement négatif?
Et pour bien répondre à ta question, présentement, nous sommes la propriété de Essilor. Puis là, nous, on vient comme... On est au bout du spectre. Tu sais, par exemple, tu as une basse vision, mais là, tu as une plus basse vision... Bien là, nous autres, il y avait comme un creux, eux autres, là, dans leur offre de produits et services. Donc, nous, on vient combler...
Donc, vous jouez déjà le rôle que j'ai décrit, là. Parfait. Oui. Dans un conglomérat.
Donc,
okay.
C'est pour ça, nous, notre avenir est beau.
Ouais. Alexandre, en terminant, bon, je sais qu'une des particularités de Canadialogue, c'est la formation... Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en formation? Il me reste 2 minutes et demie.
Eh bien, moi, je dirais que quand même beaucoup de choses qui fonctionnent, ce qui fonctionne très, très bien, c'est de un, d'avoir la possibilité d'offrir de la formation et de se baser sur le contact humain. Le contact humain est très, très important. On a la possibilité d'organiser des beaux groupes de formation où ce que les gens peuvent interagir entre eux et peuvent se comprendre, sachant qu'une majorité de gens à qui on donne la formation parlent exactement la même langue, ont les mêmes besoins. Donc, peuvent s'entraider entre eux autres. Et qu'est-ce qui fonctionne également très, très bien, ce qui n'est pas disponible chez d'autres grands concurrents, c'est par exemple la possibilité d'offrir de la formation en privé. Les gens apprécient beaucoup qu'on prenne le temps avec eux, qu'on leur explique et qu'on soit là vraiment pour répondre à toutes leurs questions. Bref, il y a des produits qui existent, ce sont des escaliers. Nous autres, on est la rampe d'accès pour adapter le tout à côté.
Alexandre Bellemare, responsable technologique. Georges Assoun, qui lui est président de Canadialogue. Michel Pépin, directeur des ventes canadiennes. Et André Dubois, ambassadeur, tous les deux chez Humanware. Merci beaucoup, beaucoup.
Merci, ça fut un plaisir.
Merci à vous. Merci.
Merci.
Oh.
Madame Campagna!
Bonjour!
Comment vas-tu?
Je vais bien, et toi?
Oui, je t'avoue, hier, là. Fait d'hiver, je suis toujours un petit peu en retard. Alors, c'était la première fois hier que je m'assoyais pour essayer de regarder CNN et ce qui se passait, puis je me sentais comme... Est-ce que j'ai le droit de regarder ça? Est-ce que c'est du voyeurisme? Est-ce que je suis en train de choisir quel game j'aime mieux? Le grabuge à Atlanta ou le grabuge à Montréal? Puis là, je change de chaîne. Je me sentais tellement mal. Et je sais que toi qui aimes l'actualité, comment tu te sens dans tout ça?
Mais faut dire que moi, depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup réduit mon écoute d'actualité américaine parce que ça me causait de l'anxiété pour toutes sortes de raisons.
Oui.
Donc, j'essaie de consommer de l'écrit le plus possible.
Oui, je comprends. Parlant d'écrit...
Oui.
Quel beau lien. qu'est-ce que tu as glané pour nous?
Ben, en fait, je voulais faire un petit peu le point. J'ai rassemblé un petit peu d'informations sur différents camps.
CAMP?
CAMP. Il y avait un article dans la presse aujourd'hui. Les organismes qui soutiennent les parents d'enfants lourdement handicapés sont notamment inquiets. Altergo, notamment, s'inquiète du fait que plusieurs camps n'ont pas les moyens d'offrir leurs services. Des moyens, on parle de toutes sortes de niveaux. On parle du fait que les commissions scolaires ne donnent pas nécessairement les locaux qu'ils auraient donnés en temps normal ou les édifices municipaux, mais ils ont écrit au gouvernement donc pour que ce soit reconnu comme un service essentiel parce que les parents ont besoin de répit.
En même temps, les écoles réouvrent, les écoles spécialisées à tout le moins aujourd'hui. Alors, on ne peut pas utiliser ces locaux-là avant la fin du mois. Ça, c'est sûr.
Oui, ça, c'est... Ouais, mais les camps, c'est pour cet été.
Oui, non, je sais, mais des fois, on aime se préparer, on aime décorer, on aime... Bon, tu restes là, on va faire une petite pause de 2 minutes, comme c'est notre habitude à la demi. Et on va poursuivre avec d'autres petites nouvelles de la part de Mme Campagna.
Vous écoutez Accès libre.
Ah, il l'a tout à voix, lui, hein? Sérieux, là. Ceux qui nous écoutent en direct, vous venez d'entendre Fulgence. Et juste avant, Clotilde, qui... Elle a un beau rire. Finalement, j'ai aimé toutes les pubs dans ce bloc pub-là. J'en parlais à Jean-Sébastien. Chaque pub avait du mérite. Madame Campagna.
Oui, puis on a cette bonne nouvelle de Clotilde qui revient.
Oui, enfin. Enfin, parce que Dieu qu'on a besoin de lire. Et on a besoin de suggestions, C'est ça. Des fois, on retourne dans nos vieux classiques, mais tu sais, l'étranger, là, ça fait son temps.
Oui, absolument.
Vous aviez autre chose?
Ben, je voulais juste parcourir des informations sur certains cas. Malheureusement, j'ai d'habitude une source pour avoir avec une liste de tous les cas, qui est le site l'accompagnateur.org, qui offre plein de ressources pour les enfants ayant des besoins particuliers, mais il a malheureusement reconstruction. Mais de mémoire, je suis allée fouiller et puis je me suis rappelé que il y avait un camp de la Société de la retraite qui avait lieu chaque année.
Okay.
Malheureusement, le camp Articulation qui avait lieu au camp Massawippi est annulé pour cette année.
D'ailleurs, je crois que tout du côté de Massawippi. Tu me disais la semaine dernière que Massawippi a annulé ses activités.
Oui, Massawippi a annulé son camp de vacances, son camp de jour à Montréal. Le camp de répit des Yearscliff annulé jusqu'à nouvel ordre et l'accueil des groupes est annulé aussi jusqu'à nouvel ordre au camp Massawippi. C'est un peu plus complexe du côté de la Fondation Papillon. Les répits week-end loisirs sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, le camp de jour de Grand Pré aura lieu comme prévu à l'été 2020. Le camp de jour, c'est bizarre parce qu'on dit qu'il y en a deux avec le même nom, un annulé, un qui a lieu. Il va falloir que je fouille un petit peu plus. Okay. Les locations de chalets sont toutes annulées. Mais je les avais appelés pour leur demander une entrevue, puis ils ont demandé d'attendre un petit peu parce qu'ils sont actuellement en réorganisation, alors on devra peut-être reprendre de leurs nouvelles.
Ben, on le souhaite en tout cas, peut-être que... Parfois c'est ça qui arrive, hein. on voit des possibilités, on se rend compte que peut-être que si on essaie telle ou telle chose, alors qui sait?
En tout cas, il y a le camp Cité-Joie dans le coin de Québec qui lui sera en opération pour l'année 2020 et ils sont présentement en période de recrutement pour des employés. Alors, on vous invite à aller voir leur page Facebook ou leur site web. On peut envoyer le CV à emploi@citéjoie.com. Là, si vous étudiez en éducation spécialisée, notamment, ça peut être une très, très belle expérience. Et puis, l'organisme Corporation L'Espoir, qui est à Montréal, qui offre des services aux jeunes qui ont une déficience intellectuelle, qui, eux, ont annoncé que, malheureusement, ils ne pourront pas observer les consignes de distanciation et offrir leur camp. Donc, il n'aura pas lieu cette année.
Mais ça, en fait, ça aurait dû être la première chose qu'on eût réglée. C'est une dérogation par rapport à la distanciation sociale. Là, je veux dire, avec une personne en situation de handicap, que ce soit la semaine dernière, j'ai eu un chauffeur du transport adapté qui voulait absolument pas me donner le coude. Puis là, il essayait de me guider à la voie, mais on s'entend-tu qu'ils n'ont pas eu de formation, là? La gauche, la droite. Écoute, c'était périlleux, Christiane. Donc, franchement, là, la distanciation sociale, lorsqu'il est question de handicap, on peut-tu, s'il vous plaît, essayer de... Je sais que c'est inquiétant, je sais que... Mais bon, je pense que on peut faire attention, puis on se lave les mains après.
Ben, je pense que c'est un peu l'idée de la démarche d'Altergo,
ben oui,
de demander qu'on considère que les besoins particuliers sont des besoins particuliers et qu'ils demandent des exceptions particulières.
Puis, écoute, tu as utilisé 3 fois le mot particulier dans la même phrase, puis il n'y en avait pas un de trop.
Mais non. Hein?
Non, ils étaient tous utiles et nécessaires.
Parce que je me le suis dit pendant, puis je dis non, ça marche.
Lâche pas, Christiane. Petit pont avec M. Jean-Sébastien qui, lui, va faire des démarches pour rejoindre Thomas Goddy. On va causer jeux vidéo. Hey, je trouvais ça tellement mauvais, ça, quand j'étais petit. Puis là, je trouve ça tellement sympathique. Il y a sûrement un titre à cette toune-là, Jean-Sébastien.
Absolument, c'est Spanish Flea. C'est interprété par Herb Alpert and the Tijuana Brass.
Herb Alpert. Aïe, aïe, aïe. Avec son... Non, ça, c'était Chuck Mangione. En tout cas, il y a eu un méga hit, lui, avec son bugle horn, Herb Alpert. Bon, je parlais de jeux vidéo. En fait, c'est peut-être plus des jeux... par informatique, parce que c'est un bon temps pour se promener sur le web, il me semble, par les temps qui courent, que ce soit pour s'amuser, se divertir, et une destination qui pourrait peut-être vous plaire, si, comme moi, vous êtes handicapé visuel. Ludociel pour tous, avec ses jeux accessibles. Thomas Goddy est designer spécialisé en accessibilité de jeux vidéo. Il est également cofondateur de Ludociel. Et Thomas, tout en te saluant, c'est écrit sur le site web... Ludociel a pour vocation de favoriser l'accessibilité et l'ergonomie des jeux vidéo. Nous créons et nous faisons la promotion de loisirs, d'activités et d'installations culturelles numériques inclusifs, participatifs et collaboratifs. Par des exemples concrets, peux-tu m'expliquer comment vous accomplissez tous ces petits objectifs?
Oui. Alors, au début, en fait, pour présenter un petit peu la démarche globale, avant de fonder Ludociel pour tous, avec d'autres collaborateurs, j'étais parti sur un doctorat sur l'accessibilité des jeux vidéo pour les personnes aveugles. J'avais commencé à faire des jeux sonores sans écran. Et je m'étais rendu compte, en fait, que ne pas faire d'écran pour un jeu accessible pour des personnes aveugles, c'est une erreur, parce que ça ne permet pas de faire ce partage de culture commune. Donc, le souci pour rendre les jeux plus accessibles à plus de monde, c'est de viser en priorité une plus large audience. Et donc, on a refait notre site web aussi avec des collaborateurs pour le rendre aussi plus attrayant pour des personnes voyantes. Je cherche à sensibiliser d'autres acteurs à l'occasion de services, des entreprises, des écoles, des étudiants sur l'accessibilité des jeux vidéo. C'est le genre de projet en fait où on cherche plus directement à s'adresser de façon frontale à une audience mâle ou non voyante, mais à sensibiliser d'autres personnes pour réussir à réunir plus de monde autour de la table en quelque sorte.
Lorsqu'on parle de promotion de loisirs, d'activités et d'installations culturelles numériques inclusifs, oui. On pense à quoi?
Alors ça, c'est le mot joli pour parler de jeux vidéo dans des événements, en fait. Quand on parle d'installation numérique événementielle, ça fait plus vendre sur le papier, mais en fait, il s'agit de faire des jeux vidéo sur des salons, des événements, des expositions. Et on présente là quelques-uns de nos produits. Par exemple, il y avait Vertin Transgénérationnel ou plus récemment HSH Go. Qui mettait l'accent sur une dimension multijoueur. Donc chaque joueur arrivait, saisissait une petite manette bricolée et ils pouvaient interagir de façon collaborative ensemble autour d'un écran. Mais là, cette dimension collaborative, on a perdu la qualité de l'accessibilité auparavant de nos jeux. Et ce sera peut-être un prochain projet sur lequel on va travailler, c'est réussir à avoir cette expérience visuelle là, mais qui puisse permettre cette collaboration avec des personnes non-voyantes.
Donc, de faire en sorte que voyants et non-voyants, bien qu'on travaille différemment, puissent obtenir le même résultat et avoir tout autant de plaisir. Là.
Oui.
Et je trouve ça intéressant parce que, bon, souvent, c'est un petit peu plus long de trouver, de se déplacer. Donc, c'est vrai que ça représente des défis particuliers. Les jeux que Ludociel pour tous offre sont-ils uniquement disponible à l'ordinateur ou également possible d'en profiter par téléphone?
Alors, on a fait quelques jeux sur téléphone, mais les conditions de mise à jour et de suivi, aussi bien sur iPhone que sur Android, sont beaucoup plus sévères. Et on a perdu en quelque sorte l'accessibilité à cause d'un manque de mise à jour de notre côté. Donc, actuellement, malheureusement, les jeux qui sont disponibles sont uniquement sur PC.
OK. Et quand tu parles de manque de mise à jour de votre côté, c'est quoi? C'est faute de ressources financières?
Oui, on est toujours en train de courir après d'autres personnes. Alors, ça va pas trop mal en ce moment, mais quand on arrive à obtenir de l'argent, on manque de temps et vice-versa. Donc, c'est toujours un équilibre un petit peu délicat. En ce moment, on manque de temps.
Oui, je comprends. Je comprends. On parle, parce que c'est souvent, en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le handicap visuel, mais vous ne travaillez pas que pour la limitation visuelle?
Principalement, mais pas que, en fait. Disons que, pour revenir sur cette histoire d'installation, au début, lors d'événements, on présentait des jeux audio accessibles, sans écran. Et puis, on se rendait compte qu'on présentait un écran noir pour des personnes voyantes dans un contexte où l'environnement sonore était particulièrement bruyant. Donc, on pouvait mettre des mois de travail à faire un univers sonore interactif. Et puis, ça valait vraiment pas mieux qu'un écran noir muet parce qu'il y avait trop de bruit aux alentours. On disait qu'on avait raté quelque chose. Donc voilà, pour la prochaine fois, en fait, il y aura un écran de jeux vidéo pour des personnes voyantes et avec un bon casque de bonne qualité pour en plus là-dedans une personne aveugle. On espère bien mettre cette notion de partage de culture commune sur un plus large public.
Mais est-ce que vous avez envie de peut-être vous lancer dans le développement de produits pour des personnes avec une difficulté neurologique ou autre?
Envisage aussi, mais en étant vigilant à ne pas se noyer non plus, parce que les thématiques peuvent être tellement complexes et diverses. Pour un projet auparavant, je m'étais posé la question avec un collègue de comment est-ce qu'on peut faire un jeu universel accessible. Il y a bien des moyens, mais ça peut devenir tellement écrasant qu'on peut perdre de vue la qualité du jeu lui-même et l'amusement qu'on pourrait en retirer. Donc, en fait, ça dépend des opportunités, des collaborations, des partenaires qui viennent nous rencontrer et discuter de projets. Ça dépend de beaucoup de facteurs. On choisit plus seul la direction de nos jeux.
Ouais. Je crois savoir que tu es conseillé, ou en tout cas, tu offres et tu conseilles d'autres entreprises lorsque vient le temps de discuter d'accessibilité. Je présume pas me tromper en pensant qu'une loi cadre imposant l'accessibilité serait quelque chose que Ludociel pour tous disons, accueillerait avec sourire?
Oui, évidemment. une loi permettrait vraiment de faire bouger les choses plus efficacement, évidemment à condition qu'elle se fasse respecter, parce qu'il y a plusieurs lois qui sortent et puis qui tombent aussitôt dans l'oubli.
Lorsque tu donnes du temps, lorsque les gens te posent des questions, est-ce qu'on on veut savoir comment le faire ou on te demande de le faire, à savoir de rendre, que ce soit un site web, que ce soit plus accessible?
Alors, là-dessus, c'est un peu plus vicieux. En général, on m'embauche pour élargir le public cible, c'est-à-dire si c'est un projet de jeu vidéo qui s'adresse à un type particulier de joueurs, mettons fanatiques de jeux de stratégie. Mon propos, ça va être de faire en sorte que même les gens qui soient un peu moins à l'aise avec le jeu de stratégie puissent le prendre en main. Mmh. Et puis, si la communication se passe bien, au fur et à mesure, par petits pas discrets, je vais leur proposer des petits trucs et astuces pour que ça soit de plus en plus accessible. Si j'y vais trop frontalement en disant « Oh, mais votre jeu, on va s'intéresser à des publics ultra minoritaires et peut-être moins rentables d'expérience, ça se passe pas bien et je fais peur. » J'approche de façon un peu plus sournoise.
Bon, parlons UX Design. Ça, c'est un nouveau projet. J'imagine que tu pensais faire beaucoup d'argent en lançant un balado assez spécialisé. C'est pour quel public et que veut dire UX?
UX Design, en fait, c'est la convergence de deux métiers. L'ergonomie, qui consiste à adapter un environnement à ses utilisateurs, et le design graphique, qui consiste à communiquer de façon visuelle, essentiellement. Donc, il y a déjà un premier paradoxe là-dessus, parce que faire du UX design sonore, il n'y a quasiment pas d'outils existants pour faire ça. Et c'est un service, un métier qui est de plus en plus reconnu par toutes sortes d'interlocuteurs dans le web et le jeu vidéo, pour améliorer la qualité de prise en main des interfaces.
Et c'est pour quel public? Parce que j'avoue, là, j'ai écouté et j'ai pas tout compris.
Alors, le public, ça s'intéresse essentiellement pour l'instant à des étudiants que je peux rencontrer dans des écoles pour leur faire réviser avec eux une partie des contenus théoriques que je peux aborder en cours.
Ah, voilà pourquoi j'ai pas tout compris. Thomas Goddy de Ludociel pour tous. Allez faire un tour, téléchargez, vous allez peut-être vous amuser, qui sait, ça vaut la peine, d'autant plus que je pense qu'il faille encourager ces tentatives de jeux accessibles. Merci beaucoup, Thomas.
Au revoir.
Jean-Sébastien, sachant que Joni Mitchell est la chanteuse préférée de Michel Rivard et qu'il a enregistré « Libérer le trésor » après, c'était l'album suivant l'album d'où est tiré « Good Friends ». C'est un hasard? C'est du... Ben, c'est pas du plagiat, ça, c'est sûr? Ou c'est...
Moi, je pense que c'est une influence quand même assez marquée.
Oui, certaine. OK, OK. Alors, on s'entend qu'il a entendu la toune puis qu'il l'a aimé, là.
Je pense que oui.
Parfait.
Ben, je l'ai aimé, moi aussi.
Oui, 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 moi aussi. Ben, c'est pour ça qu'on l'a sorti des boulamites. Le 20 mai dernier, l'Ombudsman de la ville a acheminé un avis de préoccupation, c'est comme ça que ça s'appelle, de 3 pages. À la mairesse de Montréal, il s'adresse également au maire et au directeur des différents arrondissements de la ville. La raison d'être, en fait, c'est on respectait plus ou moins les besoins pour les gens qui se déplaçaient en situation de handicap. On pense à accessibilité universelle, on pense à ces couloirs sanitaires, on pense à ces rues piétonnières. Et l'Ombudsman est avec nous aujourd'hui. La différence... D'abord, Mme Savard, entre votre rôle et le rôle du protecteur ou citoyen?
En fait, c'est un rôle qui est tout à fait équivalent. La différence, c'est le niveau de gouvernement au niveau duquel on intervient. L'Ombudsman de la Ville de Montréal, c'est le protecteur du citoyen, mais pour ce qui concerne l'administration municipale de la Ville de Montréal, alors que le protecteur du citoyen, c'est l'Ombudsman pour tout ce qui relève de la juridiction du gouvernement provincial.
Okay.
Ce sont des termes qui sont équivalents, Ombudsman, protecteur du citoyen.
Et quel est le pouvoir en ce sens? J'ai lu un texte où vous expliquiez, je crois que c'était dans la presse en décembre dernier, que c'était la première fois avant votre arrivée, il n'y en avait pas d'Ombudsman à Montréal et que vous sentez vraiment qu'il y a eu influence lorsque vous aviez publié différents avis pour corriger le tir. À quel point, justement, une personne dans votre situation peut aider, peut changer les choses?
Écoutez, la beauté d'un poste comme celui-là, d'une part, c'est qu'on est complètement indépendant, impartial et neutre. Alors, pour les deux parties. Quand on décide d'intervenir dans un dossier, on n'obtient pas d'autorisation préalable des gestionnaires de la ville et on est libre d'aller chercher toutes les informations qu'on juge pertinentes. Et la réglementation municipale ainsi que la loi provinciale sur les sites de ville prévoit que les gens à qui on demande des renseignements ou des informations, des documents, ont l'obligation de collaborer puis de nous fournir les informations demandées. Alors, ce qu'on fait comme processus, c'est vraiment qu'on s'assoit avec, quand on intervient sur plainte, ce qui est la grande majorité des cas, ben, on va s'asseoir avec le plaignant, on va discuter avec le plaignant. Ça se passe très souvent simplement par téléphone pour s'assurer qu'on comprend bien tous les tenants aboutissants de ce qui le dérange puis de ce qu'il recherche. Et une fois qu'on a fini ça, on fait exactement la même procédure avec l'entité municipale. On part avec tout ça, on fait nos propres recherches, on est autonome au point de vue juridique, on va regarder c'est quoi le cadre législatif qui s'applique, puis si à notre avis l'application qui est faite est raisonnable ou déraisonnable, ou si la qualité du service est acceptable ou pas acceptable. Et quand on s'est fait sa propre opinion, bien, si on pense que le citoyen a un motif fondé de se plaindre, c'est nous qui allons faire l'intervention auprès de la ville pour tenter de faire les choses. Par définition, un ombudsman ou un protecteur du citoyen, ça n'a pas le pouvoir d'ordonner. Alors, on a juste un pouvoir de convaincre, qui est 95% des dossiers qu'on traite, on le fait, on convainc les gens de changer leur position, ou sinon un pouvoir d'émettre une recommandation formelle avec le pouvoir d'exiger que la personne nous confirme quelles sont ses intentions par rapport à cette recommandation-là, puis on fait des suivis pour assurer l'implantation lorsqu'on nous dit qu'on va y donner suite.
En vous écoutant, je me rends compte qu'il y a le poste, mais il y a aussi la personne qui doit influencer à quel point les choses vont évoluer avec ce qu'elle dit, parce que il y a peut-être des ombudsman ou des protecteurs qui sont un petit peu plus alarmistes, qui vont crier au loup, ce qui fait qu'à un moment donné, on est peut-être moins attentif. D'autres, justement, où on se dit « Oh, si Maître Joanne Savard dit ça, ça doit être vraiment quelque chose sur lequel on doit se pencher. »
Bien, effectivement, je pense que la crédibilité, c'est pas une fonction qu'on confie à quelqu'un, par exemple, qui commencerait une carrière. Pour être nommé, je pense qu'on veut être capable d'être, pour avoir une crédibilité professionnelle déjà établie. Et dans notre façon d'agir en cours de route, c'est important de démontrer qu'on n'est pas nécessairement une valeur ajoutée pour les citoyens d'avoir un interlocuteur, c'est aussi une valeur ajoutée pour l'organisation.
Ouais.
La raison d'être d'une administration municipale, parce que dans mon cas, on parle de Montréal, c'est de rendre techniquement les meilleurs services aux citoyens. Et le fait d'avoir quelqu'un qui le regarde de façon indépendante, qui n'est pas pris dans les habitudes ou les façons de faire habituelles, qui questionne, qui va challenger, bien, au bout du compte, si les gens sont réceptifs, ça amène l'administration à rendre une meilleure décision, à mieux servir ses citoyens. Et ça, ça prend, c'est au fil des dossiers qu'on se bâtit cette réputation-là. Effectivement, si quelqu'un part en peur, qu'on crie constamment, qu'on est toujours en train de tout dénoncer et qu'on n'a pas une approche aussi équilibrée. Alors, il faut trouver le juste équilibre.
Ouais, c'est
qu'est-ce
vrai.
Qui respecte adéquatement les droits des citoyens, puis qu'est-ce qui impose par ailleurs pas une contrainte qui est trop excessive à la ville ou trop coûteuse, qui fait que pour faire ça, ben, je vais être obligé de couper ailleurs et de traiter quelqu'un d'autre des services. Et cette crédibilité-là, on l'a bâtie à chaque jour en discutant, en écoutant, en considérant, puis parfois en sachant être patient. Tu sais, ça nous est arrivé, moi, de voir des situations où je souhaitais une amélioration. On sentait pour toutes sortes de raisons que le timing n'était pas bon. Il n'y avait pas d'urgence dans ces cas-là. Alors, je mettais le dossier de côté, mais je disais au directeur, je vais revenir avec.
Okay.
Quand je sentais que le temps était plus
propice, pas...
on revenait et on arrive. Alors, je vous dirais, là, dans les 95% des dossiers où on trouve un problème, on arrive à le régler avec le consentement du directeur. Et s'il participe à trouver la solution, les chances que ça soit implanté correctement sont beaucoup plus bonnes.
La fameuse phrase, la fleur ne poussera pas plus vite si on la tire vers le haut. Là.
C'est ça.
Faut attendre.
Puis dans les cas où on n'arrive pas à s'entendre, j'émets des recommandations formelles. Moi, j'en émets le moins possible. Ça a été mon approche. Pour moi, ça veut dire que je n'ai pas réussi à convaincre. Et même dans ces cas-là, c'est très, très rare qu'on finisse par avoir un non au bout du compte. Alors, on a un taux de succès de résolution des dossiers qui est entre 95 et 100 %, ce qui est extraordinaire, à mon avis.
Permettez-moi
et tout ça,
une...
avec la flexibilité du fait qu'on n'a pas de pouvoir d'ordonnance qui nous permet de garder notre procédure simple et flexible.
Ouais. Je me permets une généralisation. Pourquoi est-ce seulement une fois que les aménagements sont faits que l'on pense aux mesures d'accessibilité universelle?
Ouais, ça, c'est moins vrai qu'avant, par exemple.
Okay.
Je dirais que quand moi, je suis arrivée comme ombudsman, effectivement, l'accessibilité universelle, les mondes en parlaient, mais ils ne pensaient pas. Quand il y avait un projet, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec la ville. On a eu beaucoup de succès là-dessus et on a réussi à... Et ce qu'on a fait au fil du temps, c'est de faire un peu plus... À peu près ce que j'ai fait là, de façon générale au mois de mai récemment, c'est quand on savait qu'un projet s'en venait, moi, ce que je faisais, j'intervenais tout de suite en disant, écoutez, vous allez élaborer le projet. On veut que vous nous confirmiez tout de suite que la dimension accessibilité universelle va être prise en compte dès le départ. Et on arrivait dernièrement à toujours avoir cette confirmation-là, qu'ils étaient pour impliquer. Souvent, ils font affaire avec des entreprises externes, des conseillers externes qui sont spécialisés en la matière. Et on réussissait à l'obtenir très bien. Ça avait beaucoup, beaucoup changé dans les 10 dernières années. Là, ce qui arrive, c'est qu'on vit une crise un petit peu à Montréal. Là, c'est une situation d'urgence. Il y a beaucoup de réaménagements qui sont faits dans une optique, à mon avis, qui est probablement positive, c'est-à-dire qu'ils veulent permettre aux gens d'occuper la ville qui est libérée des voitures, puis en respectant la question de la distanciation. Mais ça se fait rapidement. Et souvent, quand les choses sont faites rapidement, il peut y avoir des dimensions qui ne sont pas prises en compte. Alors, basé sur l'expérience acquise au fil des 17 années ou en poste, j'ai jugé pertinent de tout de suite envoyer à tout le monde. C'est pas sur un dossier particulier, c'est pas sur un aménagement particulier, mais leur dire, écoutez, depuis le temps que je suis là, on a vécu plein de situations où on a déjà travaillé avec la ville, puis on a convenu qu'il y avait des principes importants qui devaient être pris en compte. Je vous invite et je vous les rappelle pour être sûr que vous allez les prendre en considération.
Ouais, ouais.
Alors, c'était vraiment dans une optique préventive que je le faisais. Naturellement, au moment où on le fait, c'est quand on a commencé à réaliser qu'il commençait à avoir des changements importants sur la ville. J'avais cette préoccupation-là, même si je n'avais pas de plainte encore. Puis c'est vraiment pour ça que je l'ai fait en disant, ben pensez-y, parce qu'autrement, nous, on va toujours intervenir après pour faire défaire et refaire ou refaire autrement.
Puis une des difficultés, autant pour vous que pour la ville, c'est que il y a différents joueurs. Là, je pense à la STM qui peut également influencer dans ses couloirs sanitaires parce qu'il faut placer les arrêts quelque part et tout. Et ça, évidemment, vous n'avez pas droit de juridiction. Est-ce que, parce que vous quittez après 17 ans en terminant, est-ce que vous avez un mot à dire sur votre successeur?
Oui, je connais très bien Maître Nadine Mailloux. Il va prendre la relève à partir du début du mois d'août. C'est actuellement l'ombudsman de la ville de Laval. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises parce que c'est la vice-présidente du Forum canadien des ombudsman dont je suis la présidente.
Ah oui, okay.
Alors, c'est quelqu'un, je pense que moi, je me suis pas du tout mêlée du processus de recrutement de mon successeur, mais je peux rassurer les citoyens de Montréal qu'il y a quelqu'un de très compétent qui arrive en poste et qui va, la qualité du service ne sera pas du tout affectée. Mon équipe est très heureuse de l'arrivée de Nadine.
C'est la retraite pour vous ou vous faites autre chose?
La retraite, c'est mon plan actuel. c'est toujours un peu inquiétant de partir à la retraite quand on a plein d'énergie, mais c'est ça qui est mon plan actuel.
Okay.
Et j'ai rien de prévu là, pour les mois ou l'année à venir.
Maître Joanne Savard, ombudsman encore pour quelques semaines. Merci beaucoup pour ces 17 ans. Merci à Jean-Sébastien, à Christiane et à vous. Ben, je vous souhaite une bonne semaine.